on the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Eh bien aujourd'hui dans le programme en français, on va parler de quelque chose d'essentiel à la vie. Vous allez voir, ça tourne autour des champignons. On a le plaisir d'avoir le docteur Camille Truong avec nous. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
C'est intéressant de parler des champignons. Champignons, c'est, je l'ai dit, essentiel à la vie. Expliquez-nous pourquoi ça l'est.
Alors d'abord, il faut savoir que les champignons, c'est un règne qui est à part des animaux et des plantes. Traditionnellement, d'accord, pendant longtemps, on a considéré que les champignons étaient des plantes, parce qu'ils ne bougeaient pas. Mm-hmm. Mais comme probablement beaucoup de gens ont remarqué, ils ne sont pas verts, donc ils ne font pas de photosynthèse.
D'accord.
Et ils sont vraiment dans un règne à part. Comme ils ne font pas de photosynthèse, ils ont besoin de se nourrir d'une autre manière. Mm-hmm. Et la façon dont ils se nourrissent peut être très variable. Donc il y a certains champignons qui se nourrissent de la matière en décomposition. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les décomposeurs, ou qu'ils font le recyclage, en fait, de la matière organique morte.
D'accord.
Donc, les feuilles mortes, les carcasses d'animaux. Et c'est pour ça que c'est un rôle très important dans la nature, pour en fait recycler toute cette matière morte et la retransformer en matière vivante.
Est-ce qu'on sait quel est le plus vieux champignon qu'on ait pu trouver sur cette planète? Est-ce qu'il y a des champignons qui datent de l'époque des dinosaures? Est-ce que c'est des survivants? Justement, ce qu'on parle beaucoup, les cockroaches, comme on dit, c'est des survivants. Les crocodiles, c'est des survivants de cette ère-là. Est-ce qu'il y a des survivants de cette époque-là, même avant, chez les champignons?
Alors oui, les champignons, ils sont très anciens. Je dirais même bien avant les dinosaures.
D'accord.
Et on pense d'ailleurs que en s'associant à des champignons, c'est ainsi que les plantes ont réussi à coloniser la terre ferme. Donc on sait que les plantes à l'origine étaient aquatiques. Et c'est ainsi qu'elles ont réussi à coloniser le sol, en fait, la terre ferme. Donc ça date de aussi loin que remonte l'évolution des plantes.
Et depuis quand la recherche sur les champignons est active? Parce que c'est votre nerf de la guerre pour vous, j'ai tenté de dire. C'est ce que vous faites au jour le jour. On va parler de votre carrière après ça. Mais depuis quand on fait de la recherche et depuis quand on a compris le fait que les champignons sont si essentiels à la vie?
Alors, je pense que la recherche sur les champignons, à la base, était faite par des botanistes. Donc, on pensait que ça faisait partie des plantes. Je dirais que vraiment, ça a démarré ce qu'on appelle la taxonomie classique, donc la description d'espèces, aux alentours de 1700, 1800, un peu comme les plantes.
D'accord,
en fait.
Ok.
Il y a eu plusieurs grandes avancées dans la recherche. La première, ça a été le microscope. Mm-hmm. Parce que évidemment, il y a les champignons du supermarché qui sont assez gros.
Le fameux champignon de Paris,
voilà,
vous connaissez.
Voilà, champignons de Paris, etc. Mais la plupart des champignons ne sont pas aussi gros. Donc, ils sont souvent microscopiques. Et il faut... Donc, l'utilisation du microscope a vraiment permis de se comprendre qu'il y avait beaucoup plus de diversité que simplement les champignons qu'on voit à la surface du sol. Il faut savoir que le champignon qu'on voit et qu'on mange, c'est en fait l'équivalent du fruit chez une plante.
D'accord.
Alors que le champignon lui-même, il est dans le sol sous forme de mycélium. On appelle ça un mycélium. Donc, c'est des longues cellules microscopiques dans le sol. Donc, il faut les étudier avec un microscope.
Et pour vous, l'IA, c'est une opportunité? Parce que est-ce que vous pensez qu'il y a toute une part d'inconnu toujours? Sinon, vous feriez pas de recherche. Hein, sinon, on aurait déjà bouclé les valises et c'était terminé. Mais est-ce que pour vous, l'IA, justement, c'est aussi une énorme opportunité pour accélérer la recherche sur les champignons?
Alors oui, d'une certaine manière, c'est vrai que c'est des outils que dans la recherche en général, on utilise de plus en plus. On utilise ça, par exemple, quand on a beaucoup de données. Donc, on essaye de prendre les données du monde entier pour faire, par exemple, une révision globale. On utilise l'intelligence artificielle pour, en fait, nous aider à faire le travail de regarder chaque publication, etc. Il y a aussi un petit peu des algorithmes qui ont été développés pour l'identification.
D'accord.
Donc, à partir de photographies. Le problème, toujours avec les champignons, c'est qu'on estime que dans le monde, et probablement en Australie aussi, on a décrit seulement environ 10% des espèces.
D'accord.
Donc, l'algorithme de l'intelligence artificielle, il est fait pour donner une réponse. Donc, il a, disons, 10% de ces espèces en photographie. Et quand on lui montre une photographie d'un champignon, il va essayer de dire lequel de ces 10% de noms correspond à notre photographie. Donc, si on a une photo qui n'est pas dans la base de données, ça peut donner des résultats très bizarres.
D'accord. Si on parle un peu de vous maintenant, donc docteur, dites-nous vos titres exactement, parce que vous travaillez au
Donc je travaille au Jardin Botanique, au Royal Botanic Gardens Victoria, donc Jardin Botanique de Melbourne, et je suis scientifique.
D'accord. Il y a un petit accent suisse derrière, non?
Oui, effectivement. Donc j'ai étudié la biologie à l'université de Neuchâtel en Suisse, et ensuite ma thèse de doctorat à l'université de Genève. Puis j'ai fait pendant une dizaine d'années ce que beaucoup de chercheurs font, c'est-à-dire faire des projets une année, deux ans, des projets, ce qu'on appelle des post-docs, donc des projets sans avoir un poste fixe. Donc j'étais aux États-Unis un petit peu, ce qui est un peu le passage obligé pour beaucoup de scientifiques. J'étais en Amérique latine aussi, en Argentine et au Mexique. Et je suis à Melbourne depuis bientôt 4 ans.
D'accord, ok. Et il y a quelque chose de spécifique avec les champignons australiens par rapport aux champignons à travers le monde, ou est-ce qu'il y a une certaine globalisation des champignons aussi?
Alors oui, c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'étais intéressée à venir en Australie, travailler au Jardin Botanique, c'est qu'il y a une immense diversité de champignons en Australie, avec souvent des espèces qui sont endémiques et qui sont encore très peu connues. Donc, par rapport à, par exemple, si je travaille en Europe, être en Australie, pour moi, c'est comme Charles Darwin au XVIIIe siècle. Je fais beaucoup d'expéditions dans tout le pays pour récolter des échantillons, décrire des nouvelles espèces. Et il y a vraiment une diversité qui est énorme et qui est très particulière.
D'accord. Et ça vous a surpris ou vous le saviez? Vous dites que vous êtes venu spécifiquement pour ça, mais est-ce qu'il y a quand même eu des grosses surprises est-ce qu'il y a eu des découvertes, en fait?
Alors oui, je le savais. Il y a eu des études un peu à l'échelle globale qui montraient que probablement il y avait une grande diversité ici. Après, je dois dire que donc moi, mon expertise est de travailler sur les champignons mycorhizes, donc les champignons qui sont associés avec les plantes, qui reçoivent leur source de nourriture de la part de la plante et qui en échange aide la plante à acquérir des nutriments, à résister à certains stress, etc. Et ces champignons, dans les régions tempérées, donc en Europe, États-Unis et aussi en Amérique du Sud, où j'ai travaillé, ils sont souvent très divers, mais ils s'associent à relativement peu d'espèces d'arbres en général. Alors qu'ici, il y a une extrême diversité d'espèces d'arbres, plus une extrême diversité d'espèces de champignons. Et ça, c'était quelque chose d'assez inattendu, en fait, pour moi, en tout cas.
La question que tout le monde doit vous poser, mais le changement climatique dans tout ça
Le changement climatique, oui, c'est quelque chose dont on prend ça très au sérieux.
Oui, parce que ça attaque directement aussi les champignons.
Voilà. Alors, donc, les champignons mycorhizes, on sait que beaucoup d'espèces aident les plantes à résister au stress hydrique, mais évidemment jusqu'à un certain point. Donc c'est aussi des études qu'on fait pour savoir ce qu'on appelle la résilience des forêts au changement climatique. Les champignons participent à ça, mais seulement jusqu'à un certain point.
D'accord. Et ça peut être un outil, les champignons, parce qu'on travaille avec l'assistance des champignons pour pouvoir contrecarrer justement les méfaits du réchauffement climatique ou pas? Ça peut être un allié?
Alors oui, ça peut être un allié, effectivement. Il y a des projets de restauration maintenant, ou même certaines Nursery, pardon, je sais pas.
Nursery,
dire.
C'est très bon, vous pouvez le dire. On parle en franglais ici. On va dire nursery, il n'y a pas de problème. Nursery. Puis on va le laisser parce qu'on rigole.
Voilà, c'est parfait. Peuvent essayer d'utiliser, en fait, on peut faire des inoculations avec des sols qui viennent de certains environnements.
D'accord.
Pour essayer de donner à la plante, en fait, ça, ce qu'on appelle un inoculum de champignons qui va l'aider à résister au changement climatique.
Vous recevez le public un petit peu au Royal Botanical Garden, vous expliquez si ça fait pas, ou vous êtes purement dans la recherche?
Alors moi je suis dans le département de recherche. D'accord. Mais on a un très grand département de communication et d'éducation qui reçoit des écoles, qui reçoit du public, et souvent on collabore avec eux. Donc, s'ils veulent faire ils ont leur propre guide, mais avec qui on va collaborer pour les aider à développer un projet sur les champignons.
Parce que c'est intéressant, le champignon, si on revient sur le changement climatique et l'écologie, ils font partie intégrante, par exemple, de la décomposition du compost. C'est aussi un des pans de votre recherche, peut-être pour activer plus, pour mieux recycler, et ça, c'est l'accent suisse, hein, c'est les rois du recyclage en Suisse.
Exactement. Alors, en fait, je pense que, évidemment, il y a les changements climatiques, évidemment, il y a la perte de l'habitat, qui est comme tout pour tous les êtres vivants. Non humain, on va dire, un grand problème, y compris en Australie. Mais je pense que une des choses qui fait que les champignons sont vraiment en danger de nos jours, c'est qu'il y a encore très peu de connaissances à leur sujet. Et donc, on sait qu'on perd des espèces de champignons tous les jours, alors qu'on les a même pas découverts, en fait. Donc, disons qu'au jardin botanique, vraiment notre moteur de bataille, c'est vraiment d'arriver à essayer de connaître mieux cette diversité, savoir quels sont leurs rôles, justement, et aussi essayer de développer des outils pour les protéger, même si on les connaît pas.
D'accord,
par exemple, on utilise beaucoup l'ADN de nos jours pour arriver à détecter toutes ces espèces inconnues dans le sol et voir comment elles réagissent. Par exemple, on a fait avec mes collègues du jardin botanique, botaniste, on a fait une expérience où en fait on a pris du sol de différents habitats et on les a brûlés, on a fait un traitement comme si comme s'il y avait un feu.
D'accord.
Et ensuite, on a regardé comment des petites plantules de différentes espèces allaient pousser sur ces différents types de sols et à quels champignons résistaient au feu et pouvaient aider la plante à croître.
D'accord. Ah, c'est très, très, très intéressant, ça. J'ai une toute dernière question, mais vous mangez des champignons?
Oui. Les morilles, c'est mes préférés.
Vous avez des champignons préférés, mais vous les mangez avec un autre œil que peut-être moi, je peux manger les champignons, non?
Alors, il faut savoir qu'en Australie, malheureusement, la plupart des champignons comestibles, c'est des champignons exotiques.
Ouais, d'accord.
Donc, oui, j'aime beaucoup les manger, mais je vais pas beaucoup récolter des champignons dans la nature.
Vous-même, d'accord.
Moi-même, parce que j'aime bien aller dans les endroits où il y a de la végétation australienne.
D'accord. Et peut-être une toute dernière question. Mais c'est vrai que on sait qu'il y a quelques temps, il y a une nouvelle espèce d'abeille qui a été découverte, qui était absolument inconnue de tous les scientifiques au monde. Est-ce que pour vous, le Graal, ce serait de trouver des champignons complètement inconnus? Est-ce que ça fait aussi partie de l'excitation du travail?
Alors oui, et je dois dire que des champignons, des espèces nouvelles, on en découvre tous les jours, en fait.
Vous êtes blasé, alors.
On a même, aujourd'hui même, on a fait une publication.
D'accord.
Où on a même un nouveau genre de champignons.
C'est important, donc, ça?
Oui, alors c'est vraiment très important, comme je le disais, aussi pour la conservation, pour la communication, d'arriver à mettre des noms sur toutes ces espèces. Et c'est toujours excitant, mais c'est pas quelque chose de rare.
D'accord. Ok. on va terminer là-dessus. Merci d'être passé nous voir et nous avoir un peu démocratisé le monde du champignon, peut-être ouvert les yeux un petit peu dessus. Merci.
Merci à vous.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Apúrate que se acaban las ofertas de Early Black Friday en Lowe's. Ahorra hasta 50% en electrodomésticos selectos y hasta 25% extra en combos de electrodomésticos selectos. Y como la Navidad ya se siente, ahorra $4 en luces LED de 100 bombillas en hilera GE. Ahora a solo $5.98. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Válido hasta 12-3, selección varía por tienda, solo en tiendas selectas, hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Oh, 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 O'Reilly.